Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 51e émission de Complètement à l'Ouest. Et pour le premier épisode de cette nouvelle année, nous allons nous parler. Nous allons tenter de trouver les mots justes, à commencer par ceci. Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année. Parler pour convaincre, parler pour émouvoir, parler pour faire changer. Les mots ont ce pouvoir magique, incommensurable de toucher au cœur et partant de donner de l'énergie, de l'espoir ou au contraire d'affaiblir. Nous envions ceux et celles qui sont capables de manier les mots à la perfection, non pas les beaux parleurs qui ne parlent que pour s'écouter, mais les véritables orateurs, ceux qui savent trouver les mots justes, captivés, et cela grâce à leur prestance, sans doute issue de leur technique. Mais comment devient-on un bon orateur? Cela relève-t-il de l'inné ou de l'acquis? Et si oui, l'art oratoire peut-il s'apprendre tout en conservant sa personnalité? La langue, les mots, la maîtrise de la parole sont au cœur de notre humanité, à tel point que notre langue, la langue française, a inventé tout un tas de dictons ou de proverbes qui parlent de ce pouvoir d'utiliser les bons mots au bon moment, ne pas avoir sa langue dans sa poche, avoir la langue bien pendue, sans oublier tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ou encore, et j'arrête là, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Vous l'avez compris, c'est donc de mots, de diction, de regard, de posture, de parole, et donc d'art oratoire qui vont être au centre de cette première émission de l'année 2025. Mon invité vénère tout autant Cicéron que Louis Jouvet. Du premier, il cite souvent cette phrase « On est poète et on devient orateur ». Quant au deuxième, Louis Jouvet, il rappelle que le maître avait ses paroles comme il faut travailler pour être naturel. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Stéphane André.
Bonjour Philippe Boyer.
Et bienvenue au micro de Complètement à l'ouest pour cette émission que j'ai intitulée, en étant un brin provocateur, « D'où parles-tu camarade ?» en référence à cette apostrophe célèbre des années 60 et 70. Stéphane André, vous êtes professeur d'art oratoire, vous êtes diplômé de l'ESSEC, tout en ayant une formation de comédien et une expérience de metteur en scène d'opéra. Vous avez enseigné à Sciences Po, en master de communication, et vous êtes le fondateur et directeur pédagogique de l'école de l'art oratoire, qui se situe à la fois à Paris et à Bordeaux. Au-delà des mots que vous prononcez, il y a aussi ceux que vous écrivez, puisque vous avez signé plusieurs ouvrages sur l'art oratoire, et en particulier celui que j'ai avec moi dans ce studio, Une éloquence naturelle vers des organisations sans conflit, paru en 2023 chez Duno. Stéphane André, il est une tradition pour démarrer cette émission via un court extrait sonore, histoire de se mettre dans l'ambiance, et là, il va être question de trac, de stress, de bégaiement, et donc d'art oratoire qui se travaille, même si cela doit faire mal. On l'écoute.
Peut-être devrait-il changer d'emploi.
Impossible. Et si mon époux était le duc d'York?
Pardon, votre...
Altesse royale.
Altesse royale.
Mon époux a consulté tout le monde en vain.
Articulé.
Il ne m'a pas rencontré, moi. Quel est votre souvenir le plus ancien?
Je ne viens pas ici livrer mon intimité.
Pourquoi êtes-vous ici, alors?
Pour mon futur bégaiement!
Connaissez-vous des histoires drôles?
Jamais je n'arrive jusqu'à la chute.
Vos méthodes sont peu orthodoxes et controversées.
Et hop, votre Altesse royale s'élève.
Voilà pour cet extrait, il s'agit bien sûr, vous l'avez reconnu, du film très émouvant Le discours d'un roi, sorti en 2010. On connaît l'histoire, hein, dans les années 30 au Royaume-Uni, c'est le prince Albert, deuxième fils du roi George V qui est bègue, et l'abdication de son frère aîné Édouard VIII l'oblige à monter sur le trône plutôt que prévu. Et il doit se former à l'art oratoire. C'est un film que vous connaissez sans doute. Stéphane André, dans votre école de l'art oratoire, suivez-vous, vous aussi, des méthodes peu orthodoxes et controversées, comme on vient de l'entendre? Dit autrement, et pour tout de suite plonger dans le cœur de notre sujet, quelles sont les premières paroles, les premiers gestes, bref, par quoi commencez-vous pour enseigner l'art oratoire aux élèves qui fréquentent l'école de l'art oratoire?
Nous partons d'abord d'une audition, comme ça se fait classiquement au théâtre. C'est-à-dire que nous entendons l'élève s'exprimer dans une situation scénique, c'est-à-dire une situation qui relève en général de sa vie professionnelle. On le met en situation et immédiatement nous apparaissent un certain nombre de choses qui sont des petits inconvénients dans l'expression qui nous permettent de donner une direction de travail à l'élève et là de commencer à le faire travailler. Mais d'abord, c'est observer en situation, non pas de vie privée, mais de vie professionnelle. La parole en public est faite pour la vie publique. Certainement pas pour la vie privée, Dieu merci. Pour parler à son épouse ou à ses enfants, c'est pas la peine de faire de la technique, d'art oratoire.
Les méthodes peu orthodoxes ou controversées, y en a-t-il l'école de l'art oratoire?
C'est-à-dire que les méthodes, c'est curieux que vous ayez passé un fragment du discours d'un roi. J'étais bègue moi-même quand j'étais à l'école. Louis Jouvet était bègue aussi. Quelques comédiens aujourd'hui que l'on connaît sont bègues aussi. En tout cas, ce qui est peu conventionnel dans l'univers où nous travaillons aujourd'hui l'art oratoire, c'est d'abord de passer par le corps avant de passer par l'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de contre-intuitif dans notre culture française, d'intello fondu d'intellectualité et d'idées qui vont être partout, et le corps est oublié.
On reviendra largement sur le corps, sur le regard que vous avez cité, mais également sur le dos. Vous dites dans le prologue de votre livre, je vous cite, « La nature nous a offert le cadeau de la parole. Il semblerait que nous en ayons quelque peu perdu l'usage. » Quel lien faites-vous entre la nature, alors vous l'écrivez même avec N majuscule, et l'usage de la parole ?
Ce lien, il part d'abord de l'idée que, contrairement à tous les autres animaux, car nous sommes aussi des animaux, comme dirait Edgar Morin, des super-animaux, et non pas des extra-animaux, nous sommes des super-animaux, et la nature nous a donné la possibilité de créer des formes sociales, des organigrammes d'entreprise, des organigrammes d'église ou d'autres choses, et les autres animaux ne peuvent pas. Leur structure sociale qui existe n'évolue que par sélection naturelle. Chez nous, nous créons des sociétés avec des patrons, des salariés, etc., des écoles, des directeurs, des professeurs, des élèves. Et de même que la nature nous a donné la possibilité de créer des organigrammes, elle nous a en même temps donné la possibilité d'incarner, par notre utilisation écologiquement juste du corps, d'incarner les personnages qui doivent occuper ces différentes fonctions. C'est-à-dire qu'il y a dans la société, naturellement, une théâtralité nécessaire, en tout cas, qui nous a été rendue possible par la nature. Elle nous a donné le moyen de créer des rôles et en même temps de les incarner. Et c'est, en général, l'inverse de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup d'orateurs n'incarnent pas leurs fonctions.
Alors justement, on va parler du fameux corps dont vous venez aussi de rappeler à l'instant. La parole sort de nos bouches, donc de notre corps, mais vous allez plus loin en évoquant qu'un bon orateur doit aussi utiliser tous ses sens, le regard, l'ouïe, presque le toucher. Comment un orateur doit-il traiter, interagir avec son corps? Et là, c'est au centre des enseignements de l'école de l'art oratoire.
La première chose importante, c'est de recevoir sur soi-même, physiquement, la présence de l'autre.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Et le premier outil, c'est le regard. On peut très bien traiter, comme ça se fait classiquement, de la posture et de la voix, tant qu'on n'a pas parlé à nos élèves orateurs du regard sur l'autre, on n'a rien fait et on perd son temps.
Donc c'est capter le regard?
D'abord, c'est pas du tout capter, parce que de capter à capturer, il n'y a pas loin. On capte pas au lasso l'attention d'un public. C'est une absurdité totale. On mérite l'attention d'un public, d'abord parce qu'on commence par faire attention à lui. Et le public le sent. Par exemple, les gens qui arrivent sur scène, qui tordent leur micro, qui ajustent leurs notes, et qui tout d'un coup ont un vague regard sur la salle et démarrent, sans avoir regardé la salle, quitte à faire un assez long silence, le temps qu'il y ait une adéquation entre leur propre cerveau et la complexité de la situation en face d'eux, eh bien pour ça il faut un certain temps et il faut un vecteur qui s'appelle le regard d'intérêt décidé pour son public. En ce moment, j'espère que vous observez, Philippe, que mon regard s'intéresse à vous pendant que je vous parle.
Oui.
Et je ne vous lâche pas du regard parce que j'ai
c'est assez
besoin
troublant,
de vous.
Ouais.
Je ne vous regarde pas pour vous convaincre, je vous regarde parce que j'ai besoin de vous. Et si je ne me nourris pas à votre présence, si je nourris pas ma complexité à votre complexité, alors je ne peux pas conduire mon discours relativement à votre attention de manière confortable pour vous.
Je vais vous faire réagir sur quatre courts extraits sonores et vous allez qualifier ces orateurs. Évidemment, tout cela étant un milieu de considération politique. Et à chaque extrait, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants pour que vous puissiez nous dire en quoi les orateurs que nous allons écouter excellent ou pas. Allez, on y va avec ce premier extrait sonore.
Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses.
Bien sûr, on a reconnu Charles de Gaulle. Question toute simple, bon ou mauvais orateur ?
Magnifique orateur. C'est une référence pour moi. C'est une école d'oratoire en elle-même.
Pour quelle raison ?
Parce que il y a chez de Gaulle ce qu'on appelle l'incarnation de l'État, c'est-à-dire la fonction que nous avons les uns et les autres, même moi, professeur, le petit Stéphane André a pour charge d'incarner une fonction qui est beaucoup plus grande que sa petite personne, la fonction d'enseignant. Alors vous imaginez la fonction de chef d'État. De Gaulle avait cette capacité d'incarner, comme les grands comédiens pouvaient incarner le roi Lear, ou pouvaient incarner Hamlet, eh bien il faut incarner aussi la fonction à la hauteur où elle se trouve, et De Gaulle incarnait, avec sa carne, incarnait la fonction. Il avait un regard, il avait une stature physique, et il avait un son qui était beaucoup plus grand que sa propre personne. Par conséquent, il incarnait un personnage.
Poursuivons avec cette voix très connue, elle aussi. Allons-y.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Discours historique de Simone Veil en faveur de l'IVG en 74.
Ce que vous entendez là, c'est une voix de travail, c'est une voix de scène. Simone Veil, devant l'Assemblée nationale, a reçu sur elle cette Assemblée. Habituellement, dans une interview, dans un entretien, elle n'était pas très bonne oratrice. Mais là, face à cette salle et face à l'enjeu qu'elle avait à relever, eh bien, tout d'un coup, elle s'est transformée en oratrice, alors qu'elle n'était pas habituellement. Et là, vous entendez la puissance et en même temps la douceur de la voix. Vous voyez ? Et chez De Gaulle, qu'on a entendu là tout à l'heure, vous observez aussi que jamais De Gaulle n'a eu de cri dans sa voix, n'est-ce pas ? Ça, ce sont des voix puissantes, Simone Veil, De Gaulle, elles sont puissantes, musicales, sans jamais être forcées. Ce sont des voix de travail et non pas des voix de repos.
Ces voix-là, en l'occurrence, peuvent se travailler. On peut travailler sa voix ?
Petite question. Oui, on peut travailler sa voix et il faut le faire. Parce que un mot qui n'est pas porté par la voix n'apporte pas la sensation que l'orateur a du mot qu'il est en train de dire, donc l'émotion qu'il a à dire ce mot. Or, ce qui fait qu'un public est embarqué, ce n'est pas le mot, c'est l'émotion. Un grand comédien français, Laurent Terzieff, a dit « Au théâtre, le public accède à la compréhension par l'émotion. On ne comprend l'enjeu de l'État quand on écoute De Gaulle ou l'enjeu de la cause de Simone Veil quand on l'écoute que parce que sa voix porte l'émotion qu'elle a à défendre cette cause. Les mots ne sont rien en art oratoire sans la voix, sans la musique. L'art oratoire est un art. C'est pour ça que c'est de la musique et que ça n'est pas de l'expression orale ou de la prise de parole en public. Non, c'est de l'art oratoire, comme il y a de l'art dramatique. Et ça, c'est la voix et c'est l'émotion.
Allez, on écoute un troisième extrait.
Deux mots d'abord, Monsieur le Président. Messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, deux mots d'explication avant d'envisager la défense de cet homme que j'ai l'immense honneur d'assurer aujourd'hui devant vous. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble au mois de juillet. Vous savez, nous avons le même âge. Moi, je pourrais le traiter avec la condescendance des bourgeois en disant « Mais pff, ce type, finalement, c'est qu'un délinquant. »
sa voix grave ne passe pas inaperçue. Il a été ministre de la Justice, garde des Sceaux, on a bien sûr reconnu Éric Dupond-Moretti en son temps surnommé acquittateur du fait de sa capacité à convaincre les jurés pour faire acquitter ses clients. Stéphane André ?
Là, j'ai une nuance à faire sur Éric Dupond-Moretti, dans la mesure où il avait pour jardin le tribunal. Mais dès les premières prises de parole qu'il a faites à l'Assemblée nationale, il a été beaucoup moins bon orateur que dans un tribunal. Et ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Sans doute, Monsieur Dupond-Moretti a-t-il été, avec le temps, tranquillisé, fossilisé dans un certain mode d'expression quand il était au tribunal. Mais sa découverte, parce que il faut pas parler d'autre chose, de l'Assemblée nationale, je rappelle qu'il a fait un signe assez vulgaire un jour à l'Assemblée nationale à l'égard de députés, quand on en arrive à faire ce signe vulgaire, c'est que véritablement on n'est pas à la hauteur en termes d'art oratoire du public qu'on a en face de soi. Et je ferai cette nuance pour Monsieur Dupond-Moretti. Attention, ne pas se conforter quand on a des succès oratoires, ne pas se conforter, continuer à travailler. Restons modestes.
Allez, on écoute le quatrième et dernier extrait.
J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur. Compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité, nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là.
Allez, vous avez bien sûr reconnu la voix de Christiane Taubira. Nous sommes en 99, elle est garde des Sceaux, ministre de la Justice, et lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale, elle répond à Éric Ciotti. Stéphane André, Christiane Taubira.
Christiane Taubira est une excellente oratrice. Il faut soutenir que dans ce discours, elle parlait sans aucune note. Elle se permettait des apartés qui ne la faisaient pas dévier de sa ligne. Elle a cité également René Char. Bref, c'est une grande oratrice. Et là, je voudrais faire un commentaire. On peut être bon orateur et ne pas forcément avoir de grands projets politiques. Je rappelle que M. Obama, qui a été un grand orateur aux États-Unis, a lâché François Hollande quand il s'est agi de la Syrie qui avait, enfin Bachar el-Assad, qui avait dépassé la ligne rouge en gazant son peuple. Je rappelle que Barack Obama, qui était pourtant un très grand orateur, a finalement renoncé à mettre en œuvre son engagement aux côtés de François Hollande pour intervenir militairement en Syrie. Et Madame Taubira est une grande oratrice. Il se trouve qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Il faut encore le vouloir, voyez. Donc, c'est une magnifique oratrice. Elle est dans le regard. Elle a une voix qui est très pure. De temps en temps, légèrement poussée. Vous l'entendez craquer à certains moments. Donc, petit manque de technique. On est un peu sur le don sans technique. Mais c'est une grande oratrice. Je regrette vivement qu'elle ait disparu de la scène politique.
Il y a dans votre livre une partie consacrée au marché du trac. Vous constatez, et c'est vrai, qu'il y a une mode de l'éloquence. Il n'y a qu'à voir le nombre de livres de développement personnel qui sont publiés sur ce thème de l'art oratoire, en tout cas de l'éloquence. À quoi attribuer cette mode-là de l'éloquence, peut-être différemment de l'art oratoire ?
Alors, il y a le développement personnel, oui. Et ça c'est la maladie du siècle, c'est un centrage sur soi, un nombrilisme épouvantable, et puis il y a l'art oratoire qui est un centrage sur les autres. Voilà. Et cette mode du développement personnel, évidemment, c'est trouver en vous, chacun d'entre vous, votre propre richesse, etc. Comme école de nombrilisme, c'est assez extraordinaire. Alors, on s'étonnera après du communautarisme et de choses comme ça, avec des hommes et des femmes qui, maintenant, se séparent de plus en plus les uns des autres, et des groupuscules qui, tout d'un coup, se sentent de manière messianique, capables de porter un message pour le monde entier, c'est-à-dire contre le monde entier. Bon, ça, c'est le développement personnel. L'art oratoire, c'est un regard sur les autres, et c'est tout à fait différent. Alors, pour répondre aussi précisément à votre question, je pense que la mode de l'éloquence vient d'une espèce d'instinct de survie de notre société qui se dit peu à peu, on n'est plus que dans les cris, ça c'est il y a une trentaine d'années, l'oral n'existe plus, il y a une espèce d'instinct de survie collectif qui fait que tout d'un coup on s'est dit bon sang de bonsoir, il faut réapprendre à parler en public. Malheureusement, comme toutes les modes, elle reste en surface, à la surface des choses, et elle ne s'appuie sur, en général, aucune recherche. Je dis souvent que les professeurs d'éloquence se multiplient maintenant un peu comme les escargots après une pluie de printemps, c'est-à-dire qu'il y en a partout, et ce sont des gens qui s'intitulent professeurs d'éloquence, et je doute beaucoup de l'efficacité, puisque la démonstration est là, plus on multiplie les professeurs d'éloquence, plus, quand on regarde la partie émergée de l'iceberg, le monde de la politique, on voit des orateurs de moins en moins bons dans le monde de la politique. C'est le cas aussi dans l'entreprise. Donc, a priori, il y a quelque chose qui ne va pas. On pense simplement, et je reviens à votre question initiale, il y a un marché du trac. L'important, c'est d'avoir confiance en soi, d'où le développement personnel, et c'est un vrai marché. Or, l'art oratoire n'a pas pour but le traitement de la peur. Ou alors le traitement de la peur du public, mais pas le traitement de la peur de l'orateur. Moi, j'ai toujours le trac avant d'entrer en scène et je me sens pas malade pour cela.
On va marquer une petite pause avec le morceau que vous avez choisi, Stéphane André. Il s'agit de Johnny Cash, alors ce monstre de la musique américaine, et on va écouter le titre Don't Take Your Guns to Town, autrement dit, n'amenez pas vos armes en ville. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'art oratoire ou pas du tout?
Oui, il y a un rapport. D'abord, sa voix. Sa voix que je trouve magnifique. Et puis, il a beaucoup chanté dans les prisons, Johnny Cash. Donc, devant des publics difficiles. Et ça, j'admire beaucoup. Sa voix est très chaleureuse, très chaude. Elle porte beaucoup d'émotions. Et notamment, dans cette chanson où ne prends pas tes pistolets pour aller en ville, mon fils, ne prends pas tes pistolets. La mère qui s'inquiète de son fils, qui se croit tout puissant et qui va mourir dans un bar, voilà, dans un défi complètement idiot et qui va mourir. Et cette voix de Johnny Cash porte toute l'affection d'une mère et toute l'affection qu'il faudrait porter, je crois, aujourd'hui à ces publics quand on leur parle.
Allez, on écoute Johnny Cash.
A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down." But she cried again as he rode away, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down. And he heard again his mother's words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town."
complètement à l'ouest sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, de retour avec Stéphane André, un homme qui a passé plusieurs dizaines d'années à travailler sur l'éloquence, avec au passage la création de l'école de l'art oratoire, sans oublier son ouvrage, sorti en 2023, Une éloquence naturelle, publié chez Duno. Question toute simple, Stéphane André, faut-il avoir confiance en soi pour prendre la parole en public?
Non, ça n'est pas nécessaire, et je dirais même, Louis Jouvet a dit un jour à un de ses élèves, le trac, c'est la conscience professionnelle du comédien. Ne pas avoir le trac, c'est un peu un problème. Ça veut dire qu'on croit qu'on va tout réussir. Or, ça n'est pas vrai. On ne maîtrise pas d'avance un public. On n'attrape pas, je disais tout à l'heure, un public au lasso. Ils ne chercheront pas la confiance en nous. Ça, c'est du bluff. Par contre, ce qu'il faut décider, c'est la confiance dans l'autre. Même dans son adversaire, dans un débat politique, cet adversaire en face de moi, c'est aussi mon frère, et par ses questions, par ses prochaines intentions, il va m'aider à aller jusqu'au bout du développement de ma pensée. Même un adversaire, dans un débat, est encore un partenaire. Et donc, il faut décider la confiance dans l'autre, et non pas chercher la confiance en soi.
C'est plus facile à dire qu'à faire, quand même, non?
C'est une décision. C'est-à-dire que lorsqu'on dit oui mais moi quand je regarde les gens ça m'impressionne parce qu'ils n'ont pas envie de me voir et moi ça m'impressionne. Quelqu'un répondait un jour dans notre école, Madame ou Monsieur, le problème n'est pas de savoir comment les gens vous regardent mais comment vous décidez de les regarder. Il y a un moment donné où on décide de sa façon de regarder le monde. Comment est-ce que je décide de regarder l'autre en face de moi? Et ça, c'est une décision à prendre. C'est même pas un travail, c'est une décision.
Il y a un passage dans votre livre qui m'a intrigué, c'est dans les toutes premières pages, je vous cite, « Le défaut d'expression est un risque pour notre écologie sociale parce qu'il introduit une disharmonie dans le rapport entre l'orateur et son public. » J'ai dû relire en fait cette phrase plusieurs fois pour la comprendre, notamment le terme d'écologie sociale. En quoi l'art oratoire peut créer de l'harmonie ou de la disharmonie dans la société?
Alors, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'être assez rapide. En général, une faute classique des orateurs, quand ils arrivent au bout d'une phrase, comme le fait Monsieur Barnier, par exemple, très souvent, c'est de rompre le regard, de quitter l'autre du regard et de chercher quelque chose à dire ensuite. Donc on cherche, on sait qu'on est regardé par l'autre et on ne le regarde pas soi-même. Donc on devient automatiquement une proie. Ça veut dire qu'instinctivement, on pond quelque chose dans son cerveau sans regarder l'autre qui va aller un peu en défense, un peu contre l'autre. Et quand on relève les yeux pour lui dire ce qu'on a trouvé en regardant dans le vide, il y a toujours une légère agressivité dans le ton, dans le mot, quelque chose, un frottement concret chez l'autre qui va légèrement l'agacer un petit peu trop. Et là, c'est en germe déjà le conflit qui pourrait apparaître à la fin du débat.
Alors que maintenir le regard en permanence...
Ça veut dire travailler avec l'autre. Ça veut dire qu'un orateur doit être capable, en se nourrissant à la complexité de l'autre par le regard, eh bien, je suis capable d'énoncer par les mots, les tons et le rythme, mon idée qui est à l'encontre des siennes, mais sans bousculer dans son cerveau ses idées à lui. C'est-à-dire que je fais en sorte que mon idée puisse trouver sa place à l'intérieur de son cerveau sans le gêner. Alors là, il y a quelque chose qui ouvre une discussion qui peut être féconde. Et là, nous allons résoudre le problème que nous avons. Convaincre l'autre, c'est pas vaincre un con en face de soi, c'est vaincre avec l'autre un problème que nous avons tous les deux, comme aujourd'hui, nous avons une crise démocratique. Eh bien, quand je parle et que je suis à droite, au centre ou à gauche, eh bien, je parle à l'autre qui n'est pas de mon bord. Et là, nous allons trouver ensemble comment résoudre la crise de la démocratie.
Stéphane André, le temps file, une toute dernière question. En 2021, il y a eu la réforme du bac avec l'introduction d'une épreuve d'expression orale dont le but est toujours d'ailleurs d'évaluer les compétences de prise de parole en public d'un élève sur un sujet de son choix. L'épreuve est assez simple, hein, l'élève explique au jury le choix de son sujet et cela ensuite en 5 minutes doit défendre son idée. Puis ensuite il y a un échange avec le jury. Que pense le professeur d'art oratoire que vous êtes de cette épreuve? Est-ce que ça va dans le bon sens d'une république des orateurs?
Je parlais tout à l'heure de la mode, on va un peu trop vite et on fait les choses en surface. Le premier problème, c'est la formation des enseignants. D'abord, qui va former les élèves à parler en public? Et puis, les enseignants eux-mêmes sont-ils déjà formés? Tout enseignant devrait être un orateur, parce que tout enseignant devrait être un leader. Et savoir emmener toute sa classe depuis les enfants d'immigrés jusqu'à ceux et les enfants de bourgeois de Paris, etc., les nuls et les moins nuls, etc., pendant toute une année scolaire, c'est une épreuve sportive. Déjà, les enseignants ne sont pas formés à la parole en public. Donc, quand on emmène les élèves dans l'oral, il y a une espèce d'injustice, parce que ceux qui auront plus le trac vont peut-être se planter, et il y a vraiment quelque chose de pas sérieux. Là, je trouve que notre ministre de l'Éducation nationale de l'époque a fait les choses beaucoup trop vite. Et encore une fois, moi j'attends depuis des années, à chaque nouvelle réforme de l'Éducation nationale, qu'on forme enfin les enseignants à parler devant 35 mômes, toute une année scolaire. C'est une épreuve sportive absolument incroyable, et on ne forme pas les enseignants à ça. On forme leur tête, on les équipe en savoir, mais à la relation à 35 mômes, attention, hyper volatile, ils ne sont pas formés. Là encore, le corps n'est pas traité dans notre culture moderne. On ne parle que de l'esprit et jamais du corps. C'est la mort de notre écologie sociale. C'est la mort de l'écologie sociale.
Je disais la toute dernière question, mais finalement je me ravise avec cette toute dernière question. Cette fois, c'est vraiment la dernière. Si vous deviez résumer forcément très rapidement les cinq piliers de l'art oratoire, quels seraient-ils ?
Les cinq piliers,
oui, ou les trois, allez.
Le premier, c'est le regard sur les autres. Et puis il y a le dos, et puis il y a la voix, mais ça c'est un premier pilier, le RDV, le regard, le dos, la voix, et ça c'est toute la technique qu'il faut appréhender. Et puis le deuxième pilier, c'est qu'il y a une dimension contractuelle, il n'y a pas que la technique. Il y a une déontologie de la parole en public, une dimension contractuelle. Cette dimension, je l'ai apprise au théâtre. Au théâtre, j'ai appris le respect des textes et le respect des publics. En art oratoire, respectons les causes et respectons les publics.
Merci beaucoup Stéphane André d'avoir accepté de venir à ce micro pour cette 51e émission et première émission de l'année 2025. Je vous regarde, j'ai donc le devoir de dessiner une verticale qui m'élève, j'ai ce vouloir vocal, bref, j'essaie de m'améliorer, mais ce n'est pas gagné. Je rappelle que vous avez écrit Une éloquence naturelle vers des organisations sans conflit, paru chez Dunod, et que vous êtes le fondateur de l'école de l'art oratoire, dont les locaux se situent à Paris et à Bordeaux, et on peut d'ailleurs très aisément vous trouver sur écoledelartoratoire.com, et au passage, je recommande de vous abonner à la newsletter mensuelle de l'école. C'est gratuit et c'est toujours très instructif. Complètement à l'Ouest poursuit sa route et reviendra bien sûr le mois prochain pour une nouvelle émission, la 52e. Comme on a à mon habitude, eh bien, merci beaucoup à toute l'équipe technique qui œuvre en régie pour que l'enregistrement et la diffusion de ces émissions se déroulent toujours au mieux. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle que à chaque fois, cet épisode, de même que les épisodes précédents, eh bien, peuvent être trouvés et réécoutés en podcast sur les principaux players en ligne, qu'ils s'appellent Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et beaucoup d'autres. Chers auditeurs, chères auditrices, vous savez tout. Il ne reste plus, vous le savez, selon la formule et la tradition, qu'à vous souhaiter de